l'église.
On va pas y passer la nuit.
Ah, mollo sur le destroy.
Juste à gauche de Saint-Af,
au cul de l'église.
Et les gars, et mollo sur le destroy là.
On va pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va quand même pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va pas quand même y passer la nuit.
T'es bé où?
Au cul de l'église.
On va pas y passer la nuit.
À la bonne heure.
Au cul de l'église.
Et mollo sur le destroy.
Mollo sur le destroy.
Bon, on va pas y passer la nuit.
Ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses. Si Dieu veut, un jour vaincra la rabia del pueblo.
On est les seuls à pouvoir bousculer les choses.
On va pas y passer,
la nuit.
Au cul de l'église, mon gars.
Salut à tous, bienvenue au cul de l'église. Eh ben oui, eh ben non. En raison de l'état d'urgence, le conseil d'administration a décidé d'envoyer l'œil de Moscou, le regard de la fouine, une taupe, un journaliste. Pour mater la rébellion de cette bande de joyeux drilles qui font vibrer vos esgourdes nuitamment chaque semaine. Et je peux vous le dire, franchement, c'est pas une mince affaire que d'assigner à résidence et à studio cette population jeune et dynamique et en transe ce soir, surtout après la nuit de folie que la radio vous a fait passer la semaine dernière, la nuit du live. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils font de la radio, et en plus, hasard ou pas, ce soir, ils ont réussi, oui mesdames et messieurs, à casser la monogamie virile et suante. Oui, auditeurs, auditrices, ce soir, une femme est entrée dans le cénacle du studio.
Ouais.
Supportera-t-elle plus d'une heure la promiscuité dérangeante de vos compères préférés? Vous le saurez en écoutant là, maintenant, tout de suite, le cul de l'église jusqu'à 21h sur Radio Saint-Afrique ce jeudi soir. Et autour de la table, donc, les quatre chevaliers et chevalières du zodiaque de la table carrée. Il est grand, bien qu'un peu voûté, à force de sans relâche cliquer. Il est beau, quoiqu'un peu fatigué, à force de nos âneries écouter. Il sent bon le sable chaud et la clope aussi. C'est notre technicien préféré, puisque c'est lui qui est aux commandes de nos micros. Antoine.
Salut à tous.
Qui a bien voulu céder temporairement sa place de grand organisateur du plus grand raout de tous les jeudis soirs. Coucou toi nous.
Coucou Grégoire.
De quoi vas-tu nous parler ce soir?
N'importe quelle place. Alors moi je voulais vous proposer une petite chronique littéraire, mais que j'ai peu eu le temps de préparer, mais on en parlera quand même un petit peu.
À la rage totale, ça va le faire.
Il était en vacances, quoi.
Et ouais, il vient pendant ses vacances, ça c'est fou, quoi. Il n'a pas encore de poil au menton, lui, mais ça ne l'empêche pas à ses idées de pousser dans sa petite caboche. Il nous permet de comprendre ce monde étrange que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître. Salut Hugo.
Salut.
De quoi tu nous parles ce soir?
De Facebook.
Facebook, tout seul ou...
Tout seul, on va dire que je vais parler du créateur...
Et un peu l'histoire.
Ouais, un peu l'histoire, la création et les... Voilà quoi.
On verra ça tout à l'heure.
Voilà.
Il n'a pas son pareil pour déballer des histoires improbables et emballer les personnes tout aussi improbables. C'est le roi des cocos et c'est le roi du placo, c'est Cacapo. Salut camarade.
Salut, ça va bien?
Ouais, tranquille, et toi?
Eh ben oui, impeccable.
De quoi tu parles cette semaine?
Ouais, un peu politique.
Ah, politique?
Pour pas changer trop, enfin, quoique ça faisait longtemps aussi.
Politique genre politicienne ou politique-politique?
Ah, oh, politique-politicienne,
ah,
politique.
C'est la meilleure. Et enfin, oui, mesdames et messieurs, sans flagornerie, sans flatterie, c'est la plus belle, c'est la plus grande, c'est la plus adorable, la plus formidable des demoiselles qui peuplent le Sud-Aveyron. C'est un avis entièrement subjectif. C'est Emmanuel qui vient pour la première fois fouler le sol jonché de bière tiède de la radio. Bonsoir Emma.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui t'amène à venir nous causer au micro?
Eh ben, je suis venue vous parler du projet qui m'amène ici en Sud-Aveyron, parce que je ne suis pas venue ici par hasard et j'ai... un super projet qui va, j'en suis sûre, vous enthousiasmer toutes et tous.
On en parle dans quelques minutes. Merci Emma. Pour la ZIC, une bonne dose de franchouillardise ouverte et tolérante avec Jean Ferrat, de l'exotisme avec la rappeuse chilienne Anna Tijoux, mais aussi des choses stupides, drôles ou les deux à la fois, comme ceci. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission qui n'entend rien à rien, mais qui écoute l'air du temps, le cul de l'église. Et si l'air empeste un petit peu, une sorte de déjection brune, c'est aussi l'heure de la grande machine à laver qui lave plus vert que vert. Oui, en ce moment même, les oligarques du monde entier sont réunis à Paris pour décider de l'avenir de la planète, enfin de leurs intérêts sur cette planète. Et c'est de l'avenir de la planète que notre chevalier vert, notre mécanicien du son, a décidé de parler. Antoine, c'est quoi cette histoire de face cachée du numérique ?
Oui, alors bah, c'est le titre d'un bouquin, cette histoire, un bouquin, tu m'entends bien Grégoire, ça
va là ? Pas trop, mais tu peux te monter un peu. Hein.
Alors, je disais donc que c'est le titre d'un livre qui s'appelle « La face cachée du numérique », sous-titré « L'impact environnemental des nouvelles technologies ». Je me suis dit que ça ferait un sujet impeccable en pleine COP21, n'est-ce pas, alors qu'on trouve des accords démesurés. Et du coup...
Ça parle de quoi alors ?
Ça parle vraiment de la face cachée du numérique en termes de coûts financiers. De coûts écologiques aussi, puisque donc, c'est beaucoup quand même sur les émissions de CO2 et le principe d'essayer de nous montrer à quel point le numérique coûte cher à la planète. Parce qu'en fait, il demande des infrastructures qui sont énormes, des ressources qui sont énormes pour être maintenues. Et un peu, on va dire, le pari de cette étude, c'est d'essayer de produire une liste, alors non pas vraiment exhaustive, parce que justement, on se rend compte au fil du livre que quand même, ça a été très bien fait, le monde numérique, c'est suffisamment de petites choses qui sont un peu cloisonnées entre elles pour que ça soit vraiment très compliqué de faire une liste exhaustive.
Ouais.
Mais ça essaye concernant... tout au moins certains petits points. Et donc, lui, il propose de voir le numérique avec un œil un peu plus horizontal, on va dire. Et donc, je pense qu'on s'est déjà tous posé la question. Un panneau solaire, c'est chouette pour le climat. Hein. Le panneau solaire, c'est génial. Sauf qu'en fait, si on commence à réfléchir comment a été fabriqué le panneau solaire et comment il va être détruit, c'est déjà quand même vachement moins génial. Et bien, en fait, lui, il propose de faire un peu la même analyse, mais sur... l'ensemble, idéologiquement parlant, du monde numérique. Et puis, il prend appui sur quelques exemples concrets. Donc, par exemple, il y a des chiffres qui sont un peu... par exemple, une requête dans Google consommerait à peu près... Donc, si on essaye de prendre en compte les taux de
d'émissions de CO2
de la structure... Ouais, voilà, en termes d'émissions de CO2, ouais, excuse-moi. Si on prend le bilan de la mise en place de l'infrastructure qui permet au numérique d'exister, donc de faire une requête dans Google, le bilan de la maintenance de cette infrastructure, et puis ensuite le coût, parce que...
Pour envoyer les données,
chose,
tout
voilà,
ça.
Électriquement parlant, les données, elles existent bel et bien quelque part, vous vous en doutez, il existe plus de 3 millions de data centers dans le monde, c'est des immeubles concrètement remplis de disques durs qui ont besoin d'être refroidis, qui ont besoin d'être alimentés en énergie. Et donc, par exemple, une requête dans Google, ça consomme à peu près l'équivalent électrique, et donc en termes d'émissions de CO2 aussi, parce qu'il faut bien la produire, cette électricité.
Alors,
le suspense nous parle.
Elle, portée à ébullition, une tasse de thé, en gros, pour une requête.
Une donc, tasse de thé de CO2 ?
Oui. Si une, non, une tasse de thé, si on porte une tasse de thé à ébullition, ça consomme de l'énergie.
Ouais.
Si on fait au gaz, ça consomme du gaz. Si on le fait à l'électricité...
Si on fait une requête Google, ça fait autant d'énergie que pour faire bouillir du thé, quoi.
Exactement, voilà. D'accord. C'est ça. T'es très bien compris.
Donc c'est pas grand-chose, en fait.
C'est pas grand-chose, mais c'est une requête.
Sauf c'est une requête, j'imagine qu'on en fait un voilà. Petit peu plus qu'une donc,
par exemple,
en fait plus quand... par jour que ce que tu bois de thé, quoi.
Ouais,
en gros, c'est ça.
Quand on voit marqué en bas des mails, en fait, n'imprimez pas ce mail, pensez à la planète, en fait, il aurait vraiment mieux valu pas envoyer le mail, quoi. Ou alors réfléchir à qui on l'envoie pour l'envoyer au moins de personnes possible, parce que distribuer des mails à tire-larigot, en fait, ça consomme énormément de CO2.
Mais alors les spams, c'est une catastrophe environnementale ?
Et les spams sont une catastrophe environnementale, ouais, absolument.
Est-ce qu'on peut les poursuivre pour crime climatique ?
Justement, en fait, c'est aussi ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce bouquin, c'est que le postulat de l'auteur, c'est de dire que on peut pas, même en lisant ce livre et en ouvrant les yeux sur le bilan catastrophique CO2 du numérique, juste cracher sur le numérique, parce que si on devait trouver une solution quelque part aujourd'hui, ce serait à peu près incontournable qu'elle se passe du monde numérique.
Mais j'avoue qu'on va pas imprimer le rapport du GIEC, quoi. Ça va être compliqué d'imprimer les milliers de pages de rapports scientifiques, autant les lire sur Internet.
Donc en fait, c'est un postulat qui est assez intéressant, où il dit le monde numérique, c'est vachement bien, on en a besoin, et peut-être que même au départ, ça a été bien pensé, mais aujourd'hui, la demande sur le marché, alors les TICs, c'est les technologies d'information et de communication. Donc ça regroupe un peu plus que ce qu'on imagine de juste le numérique, c'est aussi l'équipement numérique qu'il va y avoir sur l'électroménager ou les choses comme ça.
Mais du coup, nous aussi, en fait, on pollue là en ce moment.
Ah ben oui. Bah oui.
Ah merde.
Et puis même, je dirais, tout le monde pollue. Tout le monde, même tous ceux qui nous écoutent, a priori, parce que... il y a forcément un petit truc quelque part. Ça commence au petit écran digital, quoi, le numérique.
Ah, mais heureusement, ils sont pas hyper nombreux, donc ça va, ils vont pas trop polluer dans le sud d'Aveyron pour l'instant.
Heureusement. Éteignez vite la radio. Et voilà. Et j'avais un deuxième petit chiffre aussi que je voulais vous présenter, parce que donc j'ai pas retrouvé mon passage un peu dans le rush avant l'émission. Alors, je vais poser mon livre, ça sert à rien. Vous pouvez entendre son bruit. Allez.
Ça donne une contenance, en fait.
C'est un vrai livre qui a coûté des arbres.
Il sait lire, mesdames et messieurs.
Ils ont défoncé. Rester.
Les techniciens de la radio savent.
Par exemple, je voulais juste vous dire que les veilles d'appareils électriques, électroménagers et numériques, donc l'équipement en France, toutes les veilles additionnées nous coûtent le fonctionnement permanent d'une centrale nucléaire. Donc si on éteignait tous, rien que les veilles de nos appareils, au lieu de les mettre en veille, si on les éteignait vraiment, on pourrait arrêter un réacteur nucléaire en France. Mais...
et on pourrait pas concevoir des appareils qui s'éteignent tout seuls.
Oui, alors si, justement, il y a un mec qui a eu un prix, je saurais plus citer lequel, mais il y a un jeune qui a inventé il y a pas longtemps des petits boîtiers qui se branchent sur vos appareils et qui coupent la veille au bout d'un certain temps de veille, quoi.
La question, c'est est-ce que ce boîtier a une veille aussi ?
Alors, comment il est fabriqué ?
Du coup, en fait, genre par exemple, si on a une cafetière et qu'on l'éteint pas, ça consomme de l'électricité, même si elle est...
Une cafetière pour...
Ouais, c'est elle est branchée en fait. Comme un chargeur portable, tu laisses brancher.
Maintenant, je suis pas...
Ouais, pareil, enfin... Je sais pas, enfin, si tu branches... Enfin, un peu comme il disait, il y a plein de trucs qui consomment, même si ça...
Cas,
même si ça marche pas, par exemple, un ordinateur en veille, même s'il marche pas, il consomme.
C'est ça.
Ah, ouais. Mais même quand tu laisses...
Comme
quand
un chargeur.
Tu charges, quand tu mets à charger ton téléphone portable, si t'enlèves ton téléphone portable, mais que tu laisses le chargeur branché, et ben en fait, t'as l'énergie qui circule, qui s'évacue après, je sais pas trop, dans l'air, mais ça consomme quand même.
D'ailleurs, le chargeur est chaud, généralement, quand tu le laisses branché, il refroidit pas, quoi.
Ouais.
On a un appel en direct de quelqu'un à l'antenne, donc c'est génial. Donc là, c'est le moment où, comme on dit dans le métier, il faut meubler. Moi, je sais plus ce que je voulais dire, parce que j'avais une idée super géniale là, par rapport à cette histoire.
Je peux dire un truc sur la pollution, si tu veux.
Alors, un truc sur la pollution, c'est parfait.
Ouais, c'est la petite. Parce que voilà, il y a pollution et pollution. Et sans du tout dire que c'est bien de continuer à polluer et tout, c'est pas ça du tout le propos. C'est juste que savoir que dans l'histoire, toutes les pollutions n'ont pas été mauvaises. Par exemple, au départ, dans l'histoire de la vie, quand les plantes sont apparues, elles se sont mises à produire de l'oxygène. Et au départ, l'oxygène, c'était un déchet. C'était en gros le premier déchet terrestre, ça a été l'oxygène. Et ensuite, l'oxygène, c'est ça qui a permis à d'autres formes de vie d'émerger, parce qu'elles se sont servies de cet oxygène justement pour vivre. Et ensuite, on recrachait du CO2. Mais voilà, donc c'est juste pour dire que on peut relativiser aussi en fonction de...
Et il gênait de quoi, l'oxygène ? Il gênait quel... Enfin...
En fait, il gênait pas. C'est juste que c'était une substance, en gros, qui n'existait pas. Et c'est quand il y a eu les plantes qu'elles se sont mises à... Bah, elles, avec leur fonctionnement, en fait, elles rejetaient ce gaz-là, de l'oxygène, qui était... Et du coup, ça s'est mis à aller partout dans l'atmosphère, etc. Et au départ, il n'était pas utilisé. Et c'est ensuite qu'il y a eu des formes de vie, du coup, qui ont consommé cet oxygène, qui sont apparues. Et donc, voilà, là, ça a créé un équilibre. Mais au départ, c'était une sorte de déchet, quoi.
C'était la Minute Science de Tony, reprise par Emmanuel aujourd'hui. Et Antoine, alors je ne sais pas comment tu as pu faire le lien entre ce livre et ce que tu vas nous faire écouter. Tu vas nous parler d'une rappeuse chilienne, je crois.
Ouais, alors ouais, non, il n'y a pas vraiment de lien autre que le contexte politique actuel pour le titre de la chanson. Je voulais juste quand même finir de dire que La face cachée du numérique, on peut le trouver aux éditions L'Échappée.
Exact.
Il a été écrit par Fabrice Philippot, Michel Dobré et Marion Michaud. Alors, la piste que je voulais vous faire écouter, si je l'ai choisie, c'est parce que d'abord elle me plaît beaucoup. Je la dédicace à mon frangin qui me l'a ramené d'Amérique du Sud, ouais, parce que j'ai aussi des très grosses lacunes en musique. Et ça s'appelle Somos Todos Erroristas.
Yo busco libertad con nombre y apellido, como una caída libre en un salto hacia el vacío, en un continuo desvarío, en un suave sinsentido que me lleva hacia el delirio. Busco el error como forma de respuesta, un colapso seguro que perturbe mi cabeza. Esta vida torpe que tanto tropieza es un regalo que atraviesa esta caja de sorpresa. Una vida sin locura no es vida, es un pedazo, un retazo, el murmullo de un zarpazo. El trazo se delinea sin miedo al fracaso, sin exitismo, olvidar el conformismo. Viva el heroísmo y todos sus desaciertos. Lo cierto no es tan cierto, es un avance en retroceso. Lo que tú ves libre, yo lo considero preso. Preso de un modelo atrofiado del progreso. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda.
En este largo andar el descenso duele al final del día, puedo ser tú. Do lo que ella quiere pero ya no vuelvo. Lo siento, no puedo traicionar mi esfuerzo. Puede que te enteres que tu dream ya no es el escape, velo al fin de este mes. Romances, desamores de corset. Por más Andrés bellos entre mis papeles. Por más Andrés bellos entre mis papeles. Ves que cabalga, yo hice mi lápida. Un nudo en la garganta permanente que traigo en épocas grises que me lanzo. Espantando cuervos que me andan rondando. Desvelando versos bastardos. El peso de lo que hablo, visto y calzo. En el amargo canto de los barrancos. Un encargo al paso que dejó mi alma en mar.
No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda. Pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda.
Ana Tijoux, la fabuleuse et géniale rappeuse chilienne Somos Todos Terroristas, que vous pourrez écouter dans une émission qui parle de musique d'Amérique latine, mais je ne vous en dis pas plus parce que ce serait de l'autopromotion. Non, ce soir, c'est le cul de l'église.
El Goyogoyito.
El Goyogoyito, exactement.
Arriba.
Frecuencias latinas, arriba.
Bon, allez, on arrête les conneries, on est au cul de l'église et c'est sérieux. On est toujours là pour vous servir, auditeurs, auditrices, ce soir, avec donc chose exceptionnelle, je vous l'avais dit au début, de la mixité de genre dans le studio. Non, Cacapone, c'est pas encore grimé en drag queen, c'est Emmanuel qui nous fait le grand plaisir de venir causer au micro. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir, je suis une femme et je peux le prouver, mais je ne le ferai pas.
Pourquoi venir nous causer ce soir? De quoi d'ailleurs?
Je viens vous causer d'un projet magnifique que je porte. C'est le projet de création d'une école démocratique.
Une école démocratique, c'est
ouais.
Quoi?
C'est-à-dire?
Ça veut dire quoi?
Voilà, alors je sais que le terme de la démocratie, ça ne veut plus dire grand-chose dans nos contrées, surtout en ce moment par exemple. Mais non, là, il s'agit d'une vraie démocratie, c'est-à-dire, en fait, c'est une école qui est gérée par les membres du personnel et par les élèves. Donc, il y a une assemblée qui se réunit toutes les semaines et qui prend toutes les décisions qui concernent l'école. Et dans cette assemblée, une personne a une voix, peu importe son âge et peu importe son statut dans l'école.
D'accord, donc c'est-à-dire que ça peut... L'élève et le professeur ont le même... on va dire le même
statut.
Ouais, statut, on va dire ouais, les enfants, les adultes ont les mêmes statuts et chacun a une voix et la gestion se fait collectivement.
Mais alors ça, c'est une école, en fait, parce que moi, je connaissais les écoles Freinet, Montessori, donc un truc un peu alternatif, déjà, par rapport à l'éducation nationale et au privé. Là, c'est encore autre chose, j'ai l'impression.
Voilà, alors, ouais, en fait, l'idée, c'est que les écoles type Montessori, Freinet, Steiner, tout ça, si vous connaissez, c'est des écoles qui s'appuient sur des pédagogies alternatives, mais dans laquelle il y a toujours des objectifs éducatifs. En fait, on va faire apprendre un programme aux enfants, mais on va le faire avec des méthodes différentes de l'éducation nationale. Donc voilà, Montessori, y a tout un matériel spécifique. Après, Freinet, c'est plus sur des petits projets, type le journal et tout. Enfin, en gros, les moyens vont changer, mais il y a toujours cet objectif derrière d'apprendre un programme aux enfants. Alors que là...
c'est tout le monde qui
c'est les enfants.
Dirige. Quoi.
C'est les enfants qui choisissent leur programme, quoi, ça.
Eh bien, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est une école où il n'y a pas de programme, où il n'y a pas de prof. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de classe.
C'est pas une école alors. Pourquoi on appelle ça une école?
Alors c'est quand même une école. En fait, on appelle ça une école, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être appeler ça différemment. Ça existe depuis une cinquantaine d'années. Il y a un exemple assez célèbre, c'est Summer Hill en Angleterre. Vous connaissez peut-être le livre Libre Enfant de Summer Hill. Il y a un film aussi qui s'appelle Les Enfants de Summer Hill. Donc voilà, il y a cette école-là. Et moi, celle qui m'inspire le plus, c'est la Sudbury Valley School. Qui est aux États-Unis, qui existe depuis 47 ans. Et donc voilà, l'éducation démocratique, il y a plusieurs un peu types d'écoles à l'intérieur, mais grosso modo, c'est toujours ça, cette décision collégiale. Et puis le type Sudbury, voilà, il n'y a pas de classe. Donc c'est-à-dire que tous les âges sont mélangés. Il y a des enfants de tous les âges, des adultes, des ados, etc., qui sont mélangés.
Ouais.
Il y a...
Donc après, c'est aussi une école où on est en apprentissage libre, je crois.
Voilà, alors du coup, voilà, l'idée, c'est que les enfants, avant d'aller à l'école, quand ils sont petits, ils apprennent à parler et ils apprennent à parler, ils apprennent à marcher sans avoir de cours. Il n'y a personne qui va leur dire, alors lever la jambe à 45 degrés, avancer le pied. Voilà, ils vont par mimétisme, en fait, simplement en vivant leur vie, en vivant dans leur environnement. Ils vont apprendre les choses. Et l'idée, c'est que si on n'entrave pas ça, en leur disant, bah voilà, il faut être enfermé dans une salle de classe de telle heure à telle heure et apprendre ça, ce sujet-là, de telle manière, avec que des enfants de votre âge, en étant assis, machin. Enfin, si on ne fait pas ce genre de choses, mais qu'on laisse se développer simplement les êtres vivants, quoi. Enfin, les enfants, en l'occurrence. Ils vont aller eux-mêmes découvrir le monde qui les entoure. Et en fait, on apprend tout le temps. L'idée, c'est que là, actuellement, on est en train d'apprendre tous autour de la table. Les auditrices, auditeurs qui nous écoutent sont en train d'apprendre plein de choses actuellement aussi. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, vivre, c'est apprendre. Et donc, simplement, c'est de laisser le temps et l'espace pour que cet apprentissage autonome puisse se faire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que l'école semble obligatoire, je crois, dans le pays, jusqu'à 16 ans au moins. Et puis du coup, il faut suivre l'éducation nationale. Ouais. C'est pas obligatoire tout ça?
Mais en fait, c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est plutôt l'éducation, en fait.
C'est l'instruction.
C'est l'instruction qui est obligatoire.
C'est ça.
D'accord.
C'est l'instruction qui est obligatoire.
Ouais, tant que c'est, par exemple, l'école, y a des gens qui font l'école à la maison et tout. Du coup, c'est pas forcément l'école qui est obligatoire, mais l'éducation. C'est le fait qu'il y ait une instruction faite...
Voilà, le terme c'est ça, c'est instruction, et en fait il faut qu'à 16 ans, les jeunes aient acquis les bases du socle commun. Donc faut savoir qu'en France, ces écoles, les écoles démocratiques comme les autres, sont soumises à une inspection par un inspecteur académique. Donc il va quand même vérifier ce qu'ils font. Alors c'est vrai que c'est complètement contraire du coup à la philosophie du lieu, mais on s'adapte quoi, et puis de toute façon après c'est...
Et puis ça permet aux gamins qui sortent de ces écoles de passer le bac ou d'autres diplômes éventuellement s'ils le souhaitent.
Ouais, alors voilà, donc si jamais ils ont envie, l'idée c'est de fournir aussi les ressources dont ils ont besoin. S'ils ont envie de passer un examen, donc typiquement le bac, ils peuvent le préparer au sein de l'école et ensuite le passer en candidat libre.
D'accord. Une question sur la table peut-être, ou en studio?
Non, à la limite, alors moi je me demandais quand t'as présenté tout à l'heure, Emma, si une école démocratique c'était une école où on t'apprenait que des gros mots, mais ouais, non, c'est sûrement pas ça, ça aurait plu à Hugo, je pense qu'il aurait relevé.
Non, pas ça, non mais enfin, je veux dire, est-ce que moi si par exemple c'est une école qui ouvre ou quoi, Est-ce qu'il faut s'inscrire par exemple au CP et rester jusqu'à machin ou c'est plutôt je peux m'inscrire demain?
Hugo,
et...
il veut savoir s'il peut.
Intégrer l'école. Alors Hugo, tu es le bienvenu. Ce serait ouvert pour tous les âges. Donc il y a pas de classe. L'idée c'est que du coup en mélangeant tous les âges, tu apprends en fait. Les plus jeunes apprennent des plus grands qui ont plus d'expérience et aussi ça responsabilise les plus grands qui aident aussi les plus jeunes, sont inspirés aussi parce que parfois les plus jeunes aussi sont plus créatifs, sont plus impulsifs, etc. Donc le multi-âge, c'est quelque chose de vraiment important. Donc la gestion collective, le fait aussi d'avoir ce temps, cet espace. Et puis, il y a quelque chose, un aspect aussi important dans cette école que je souhaite créer.
Ah, parce que là en fait, il n'y avait pas déjà des aspects. Là, c'est encore un autre truc, du coup, en plus.
Ouais, c'est un truc en plus. C'est, ça vient plutôt de mon parcours personnel. Et c'est que je voudrais qu'il y ait une place importante accordée à la nature. Parce que je pense que la nature est un formidable enseignant. Et d'ailleurs, les scientifiques, maintenant, parlent d'un syndrome de manque de nature. Donc, les êtres humains, maintenant, souffrent, en fait, d'être trop déconnectés de la nature, de pas pouvoir, de pas toucher les arbres, toucher l'eau, toucher la terre, etc.
Et du coup, c'est scientifiquement prouvé, il y a des recherches là-dessus.
Il y a un syndrome, voilà. Et du coup, ça a des conséquences importantes sur le développement du cerveau, sur le développement physiologique et tout des individus. Et c'est pour ça qu'en ville, ils ont tous l'air déprimés et qu'ils sont pas très bien, quoi. Ils sont tout le temps malades.
Ils parlent à personne.
On a des gens de ville qui sont dans le bocal de la régie qui nous disent que ah non, pas du tout, absolument pas, nous sommes des êtres parfaitement développés et heureux et épanouis, n'est-ce pas? Je sais pas si elles veulent dire un mot, les spectatrices de cette émission.
Nous, on est complètement développés, nous.
En tout cas, il y a Hugo qui a envie de parler, là.
Déprimé.
Hugo, ouais.
Je me disais, est-ce que cette école, il y en a combien en France? Est-ce que c'est payant ou il y a des démarches à suivre, un niveau scolaire?
Tu veux pas donner des cours de journalisme à Grégoire? Parce que voilà des questions pertinentes, au lieu de dire des âneries depuis tout à l'heure. Merci Hugo. Donc, il existe, il existe une école démocratique.
C'était purement gratuit, mais c'est pas grave.
Je trouve que t'es devenue toute rouge, Emma, depuis que t'as envoyé un fion à ton mec, c'est normal.
Comment...
Non mais parce que j'informe les gens, ils te voient pas, il y a que le son, alors voilà. Faut...
Ouais. Je sais pas de quoi il parle. Donc,
mais pour information pour les auditeurs, ça, Emmanuel est ma compagne.
Oh mais forcément. Non, mais c'est pas possible, je perds toute crédibilité.
Ah
voilà,
bah,
on va dire
voilà.
Que je suis pistonnée et tout.
C'est pire que
merci
ça.
Merci Antoine.
Tu es plus que pistonnée, tu es propulsée par le pouvoir de la radio qui va propulser ton projet.
Puis-je répondre aux questions d'Hugo?
Absolument pas.
Ou est-ce que c'est censuré dans cette radio?
Totalement.
Je tiens à préciser que c'est Emma qui a réussi à nous ramener Grégoire et pas l'inverse.
Ouais, ça c'est vrai ça.
Et voilà.
J'avoue.
Donc
la question d'Hugo.
Donc il existe plusieurs écoles un peu de ce type en France, mais la seule école pour l'instant qui se revendique du modèle Sudbury, qui est celui qui m'intéresse vraiment, elle vient d'ouvrir à Paris en septembre, elle s'appelle l'école dynamique, comme ça je leur fais un peu de pub, et du coup, mais après il y a un réseau au niveau national, et même au niveau européen, il y a la communauté européenne pour l'éducation démocratique, qui s'appelle l'EDEC, et mon projet en fait déjà partie, parce que je pense que c'est super important dès le début d'avoir un réseau autour de soi. Donc je fais partie, du coup j'échange avec des gens de différents pays d'Europe, de différents pays du monde, des gens en France qui ont déjà fait des écoles, des gens qui sont en projet d'école, et en fait on échange tous, je suis allée en rencontrer aussi. Et c'est vraiment bien, avant de bien m'implanter au niveau local, d'avoir ce soutien-là, de pouvoir bénéficier de leur expérience, de leur aide et tout ça. Et du coup, l'autre question, c'était par rapport au...
Mais au tarif, c'est-à-dire que souvent, les écoles qui sont hors cadre, elles ne sont pas spécialement gratuites et accessibles à tous, quoi.
Voilà, alors ça, c'est aussi mon autre cheval de bataille. C'est-à-dire que, par exemple, l'école dynamique...
15 chevaux.
Ils font payer... Alors attention, n'ayez pas peur, parce que ce ne sera pas le tarif de mon école. Mais donc, à l'école dynamique, ils font payer 400 euros par mois aux familles, par enfant.
Un RSA, quoi.
Alors après, ils sont dans Paris, et donc déjà, il y a le loyer qui coûte un bras, quoi, qui coûte super cher. Et ils ne se sont pas spécialement attardés sur la question de la mixité sociale et de pouvoir accueillir tout le monde. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est possible d'aller chercher des financements. Et notamment, il y a une école qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à Bordeaux. Et eux, par exemple, ils ont fait un truc qui m'intéresse beaucoup. Ils ont utilisé le financement participatif avec des gens. Donc, ils ont trouvé 1000 donateurs, un millier de donateurs. Et chacun s'est engagé pendant un an à donner 5 euros par mois. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, 5 euros par mois. Ils se sont engagés pendant un an. Donc, ça fait déjà 5000 euros par mois qui tombent comme ça. en plus de sous qu'on peut avoir de certaines fondations. Alors, pas n'importe qui, hein, mais certaines fondations.
Total, Vinci, évidemment, quoi.
Non, des fondations solidaires et tout ça. Plus après, peut-être quelques subventions, des choses comme ça. Mais en tout cas, je veux vraiment faire le maximum pour que ce soit accessible. Surtout en milieu rural ici. Enfin, c'est hors de question que je demande des centaines d'euros aux gens, quoi.
Donc septembre prochain à Saint-Taf, ça ouvre quoi.
Alors justement, je suis à la phase où je cherche des gens pour faire l'équipe avec moi. Mais
je veux bien être élève moi.
Ah, on a au moins un élève. Ah, on avait une question, je crois, en régie.
Vas-y.
C'était de savoir si t'avais déjà des partenaires et des contacts pour monter cette école.
Alors voilà, bah du coup, donc j'ai ce réseau. Après, au niveau local, j'ai pas encore trop fait communiquer dessus, donc je remercie beaucoup Radio Saint-Afrique qui, par une heureuse coïncidence, a accepté de me recevoir dans ses locaux.
Extrêmement heureuse.
À son antenne pour que je puisse en parler. Donc j'espère que grâce à ça, je vais recevoir une foule d'emails et tout, parce que j'ai quand même un site internet, je tiens à le préciser.
Ça c'était prévu dans le pied en fait de l'interview, donc à la toute fin, mais tu peux le dire dès maintenant, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de faire le modèle journaliste habituel.
Cassons les cadres.
Cassons tout.
Et donc il y aura les coordonnées, j'espère, sur le site de la radio. Donc c'est.
T'as compris, Antoine?
C'est École Joyeuse, parce qu'elle s'appelle École Joyeuse, mon école.
Et oui, en plus.
C'est mignon.
Et en fait, les locaux, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs, une salle du jeu.
Non, il n'y a plus de locaux. Il n'y a plus de locaux. C'est ça aussi, on fait disparaître.
Non, mais il n'y a plus rien.
Non. Le but, c'est... Donc le site internet, c'est écolejoyeuse.wordpress.com. Voilà. Donc il y a toutes les infos dessus. Enfin, pas toutes, mais beaucoup. Et notamment, je décris un peu l'espace idéal. Donc si parmi les auditrices, auditeurs, vous avez une grande maison ou une ferme ou quelque chose comme ça, des bâtiments qui ne vous servent plus ou que vous pouvez donner, que vous pouvez louer pour pas trop cher, que vous pouvez vendre voilà, en cassant les prix avec du terrain autour et tout ça. Enfin voilà, on est preneur pour ce projet, j'en profite. Et donc oui, j'aimerais qu'il y ait le maximum d'espace, par exemple un espace pour pouvoir jouer de la musique, des espaces extérieurs, des espaces pour faire de la création, des espaces de discussion, une bibliothèque, des ordinateurs, enfin un peu tout ce qui a besoin quoi.
D'accord. Donc pour les fêtes, le cadeau d'Emma. Elle nous a déjà fait sa liste.
Un atelier de bricolage.
Un instrument de musique.
Sinon t'emmerdes pas, tu le fais dans la rue et voilà.
Ah, ouais, ça pourrait être pas mal, ça. École démocratique, je suis à la place de Saint-Afrique.
Voilà. Place de la mairie.
Pour monter une école démocratique, il faut avoir un nombre minimum d'élèves ou maximum ou quelque chose comme ça.
Après, il faut surtout un nombre d'élèves suffisant pour pouvoir que ça tourne, en fait, j'imagine.
Ouais, c'est ça, c'est surtout par rapport au financement, en fait. En fait, si l'argent qui rentre, c'est essentiellement de la part des familles, bah, y a besoin de beaucoup d'élèves. Maintenant, si l'argent, il peut arriver d'ailleurs, il n'y a peut-être pas besoin de tant d'élèves, je ne pense pas. D'accord. Et je n'ai pas répondu tout à fait à sa question sur si j'ai déjà des personnes... Donc, il y a des personnes un peu autour qui sont intéressées par le projet, mais pour l'instant, je suis toute seule à vraiment le porter et à être pleinement impliquée dedans. Donc, je suis en recherche de collaboratrices et collaborateurs.
Et actuellement, tu es en plus soutenu par l'association ID, qui n'est absolument pas partenaire de la radio, mais qui nous amène plein de gens intéressants avec de beaux projets régulièrement, notamment dans cette émission le cul de l'église.
Et j'allais dire qu'il devient peut-être partenaire du cul de l'église là, du coup.
Voilà, c'est ça. Qui est partenaire de la radio, mais qui est en plus partenaire du cul de l'église dans la radio, quoi. C'est un partenariat dans le partenariat.
Ah, c'est vrai que ID m'aide bien là. J'ai fait des formations avec eux et ça m'aide vraiment.
Voilà, bah merci beaucoup Emmanuel. Bah, j'imagine qu'on suivra ici, comme dans d'autres cadres radiophoniques, ce projet magnifique et superbe dont tu as dit tant de bien. Une dernière question peut-être, Hugo ?
Est-ce qu'il y aura, par exemple, si c'est pas... C'est plutôt, est-ce qu'il y aura, par exemple, des pensionnats, etc. Des
internats.
Internats, voilà.
Alors voilà, dans le meilleur des mondes, idéal et tout, oui, il y aura un internat pour pouvoir faire venir des jeunes des banlieues difficiles qui auront besoin de s'aérer l'esprit, les neurones et tout ça. Et non, mais sérieusement, je pense que ce serait génial. Et donc, pareil, si quelqu'un entend, etc., machin... vous pouvez. Donc ce serait bien. Et voilà. Et juste pour dire aussi, du coup, je cherche plutôt sur le territoire du Saint-Afrique. Hein.
Bah oui, évidemment. C'est le cœur du monde, c'est le cœur de la vie, puisque c'est le cœur de votre radio Saint-Afrique qui vous diffuse tout de suite, bien sûr. Ce qu'il y a, il y a presque 40 ans déjà, avait déjà pensé les limites de l'éducation. Les Pink Floyd and the Brick in the Wall. Who's with this one?
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Breaking the wall.
Come on, do it again.
All in all, you're just another break in the wall.
We don't need no education.
If you don't eat your meat, you can't have any pudding.
We don't need no food control.
How can you have any pudding if you don't?
And the brick in the wall. Allô, allô Kakapo, allô Hugo, allô Emma, toujours dans le cul de l'église, avec une nouvelle personne qui ne souhaite pas se présenter, qui ne souhaite pas dire qui elle est, mais qui souhaite donner son avis, et c'est ça qui compte, qui est entrée dans le studio, Nelly, également stagiaire d'idées, qui est là pour nous accompagner sur la deuxième partie de cette émission, le cul de l'église sur Radio Sainte-Afrique. Vous savez, on sait quand ça commence, jamais quand ça s'arrête, et surtout vers quoi ça va, mais on aime ça et on en demande, et c'est un habitué maintenant, presque un taulier en fait, s'il mesurait pas moins d'1m60 et qu'il n'arrivait pas encore à atteindre le haut du bar sans sauter à pieds joints et sans enrouler, non, pas des pieds. Hugo, mon cher, de quoi vas-tu nous parler ?
De Facebook.
Facebook. Alors, qu'est-ce que Facebook ?
Donc, Facebook est un site internet, on va dire réseau social. C'est un réseau social totalement. Un réseau social.
Réseau social ?
Oui. Oui, réseau social. Donc, créé en 2003 par Mark Zuckerberg, c'est un nom bizarre, qui commençait sa deuxième année d'études dans une université d'Harvard.
Aux États-Unis ?
Aux États-Unis, forcément, oui. Ben, franchement, rien qu'à Harvard, on comprend que le mec.
C'est vous qui pue des fesses !
Merci papa.
C'était une blague sponsorisée par Yann.
Vous aurez tous eu votre couche famille comme ça.
C'est clair.
Donc oui, rien qu'à deviner le nom de l'école, c'est qu'il doit être, il est bien calé niveau algèbre, maths et bien sûr informatique, discipline dans laquelle il excelle, forcément.
Comme un tableur, Excel.
Tout le monde. Ouh là là, le niveau forcément. Est haut ce soir.
Forcément, forcément. Donc le 28 octobre 2003, il met en ligne un site flash mash.
J'aime.
Merci Emma, merci. C'est le genre d'humour que j'adhère complètement.
Donc il met en ligne.
Hugo, te laisse pas déstabiliser.
Le site Flashmash, et donc il pirate le service informatique de son université et il prend toutes les photos des filles de son université. Donc il crée un site internet où il met deux filles les unes à côté des autres.
Ouais.
Et donc tu votes pour laquelle c'est la plus belle.
Pervers.
Non, tu votes c'est la qui a.
C'est-à-dire que Mark Zuckerberg en fait c'est l'ancêtre de Miss France.
Non, mais c'est, je sais pas si vous voyez, c'est genre un peu Tinder,
ouais.
Mais des années 2000, quoi.
D'accord.
Donc en fait, tu juges ce qui est la plus belle et au bout d'un moment, il y a un classement qui se fait. Donc,
bon, pour les vieux qui nous écoutent, Tinder, c'est les petites annonces en fait, mais en version numérique, voilà.
Ouais, voilà.
C'est un gros sexiste en fait, Mark Zuckerberg, c'est ça le truc.
Non, mais il avait fait, il avait fait ça pour rigoler, donc... forcément, donc...
Attends, vas-y, continue.
Donc classement général établi. Donc sans aucun doute son université n'est pas forcément appréciée. Donc ils ont donc fermé le site internet. Mais lui il a résisté. Donc il a passé tout son mois de janvier 2004 à développer The Facebook. Oui, le nom d'origine c'est The Facebook.
The Facebook.
Jusqu'au moment où c'était juste The Facebook, c'était le nom quand il y avait que les universités, juste son université qui avait le droit d'aller sur Facebook.
D'accord. C'était un réseau en fait réservé à l'université.
Ouais, c'est ça en fait. C'était voilà.
Et comment c'est devenu le premier réseau social du monde ?
En fait, donc une fois que The Facebook était créé, il l'a envoyé à quelques amis histoire de voir ce qu'ils en pensaient. Et en moins de 24 heures, 1500 inscrits.
Pas mal.
Pas mal, oui.
Pas mal.
Donc.
Peut-être pareil pour l'école joyeuse d'ailleurs, hein. C'est ce qui va arriver après cette émission.
Ouais, d'ailleurs, il y a une page Facebook École joyeuse. Et je vous invite à aimer.
C'est comme Mortus Corporatus,
tu vas devenir riche.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Tu vas devenir riche.
Il y a déjà plus de 100 j'aime sur la page Facebook de l'école joyeuse, rejoignez-nous.
Voilà. Donc, la moitié des. Enfin, ça fait à peu près.
Ça fait à peu près
10 000 habitants. Enfin, après, je veux dire, après, donc de fil en aiguille, c'est passé de 10 000 étudiants inscrits. Et donc, Marc ouvre l'accès à d'autres universités du coin, du style Wall, Bolivia et un autre truc.
D'accord.
Je ne me rappelle plus le nom. Donc, ensuite, au bout d'un moment, Facebook prend vachement d'ampleur. Donc ils ouvrent une petite truc un peu comme Radio Saint-Ave quoi, mais pour Facebook.
Bah oui.
Une espèce de petit truc comme ça quoi, histoire de.
Attends, on est 5 salariés ici, hein, mec. Hein. Ouais, voilà, une grosse petite association.
Eux, ils étaient. C'était pareil. Eux, ils étaient plus en société, mais ils étaient 3 ou 4.
Comme Roquefort.
On voit l'avenir de Radio Saint-Ave.
Et donc. Donc ils montent ça et tout machin. Et au bout d'un moment. Pardon pour l'accent. Donc,
pourquoi l'accent ? Tu parles
avec l'accent. C'est bien l'accent.
Ouais, l'accent il est bon quoi. Attention,
c'est l'accent anglais par contre. Bon.
Donc,
allez, courage Hugo.
Donc il voit que ça carbure et tout son truc. Du coup, il l'ouvre à peu près aux États-Unis et au Canada.
Ouais.
Donc à peu près. Il doit y avoir à peu près la moitié du Canada et la moitié des États-Unis qui s'inscrivent et tout. Du coup, ça devient quand même un truc bien quoi. Et donc en 2005, le nom du domaine thefacebook.com est acheté 200 000 $. Par la suite, Facebook enlève ce the.
Mais c'est parce que c'était dur à prononcer.
Ouais, pour l'exportation, oui, pour les Français, c'était pas terrible.
Ouais, c'était trop chaud.
Ça sonne mieux Facebook quoi.
Facebook en espagnol. Voilà.
Donc donc il ouvre le disponibilité de se faire un compte Facebook à partir d'une personne qui a plus de 13 ans. Donc, dans tout le monde entier, donc la Chine, la France.
Donc, toi, tu peux pas ?
Moi, je peux.
Ah, bien.
Je les ai eu il y a 5 jours.
En plus d'être sexiste, il était
agiste. Anniversaire !
Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, mon nom Chine et tout. Donc, tout le monde peut s'inscrire dans le monde entier, vraiment dans le monde entier. C'est comme tout le monde a Google dans le monde entier, à peu près, mais.
Non, pas moi. J'ai pas Facebook non plus.
Non,
j'ai
mais
pas
oui,
de téléphone.
Ouais, mais tu pourrais l'avoir si tu voulais, caca pour.
Tu pourrais l'avoir quoi.
Je veux pas.
D'ailleurs, tu l'auras un jour.
C'est un droit.
On t'aura.
C'est un droit.
Non. Je propose de faire une page Facebook Cacapo pour lui.
Ah voilà. Ouais.
C'est déjà, il y en a déjà des trucs comme ça sur Facebook.
Donc, d'après une étude du 15 juin 2015, une moyenne de 950 millions d'utilisateurs actifs par jour.
Ah ouais, quand même. Presque un milliard de personnes inscrites sur Facebook actives.
Et donc, sans oublier aussi que maintenant, Facebook, c'est carrément un truc énorme, on va dire. Donc,
venons-en.
Actif. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, le record réalisé, enfin, aujourd'hui, en 2015, le record de l'équipe de Facebook, c'est de 1 milliard de personnes actives sur Facebook.
1 milliard de personnes actives, et ils ne sont pas tous chinois.
Le 8 août 2015, justement, il y a eu 1 million de personnes actives.
1 milliard ?
1 milliard, 1 milliard.
1 milliard sur la journée qui était active, c'est ça ? C'est même pas le nombre d'inscrits total, en fait.
Non.
C'est juste sur une journée le nombre.
Ouais, le pic,
le nombre d'inscrits total, je pense que t'enlèves 5% de la population mondiale et t'as le résultat, quoi.
Non, ça, j'ai oublié de regarder combien on était dans le monde pour voir à peu près le pourcentage de personnes.
Ouais, ça fait du monde quand même.
Ouais, ça fait du monde. Enfin, faut compter quand même qu'en France, je pense qu'il y a plus genre 3/4 de personnes qui ont Facebook.
Voilà. Sachant que ça inclut pas les enfants de moins de 13 ans et ça inclut pas les vieux de plus de 90 ans parce que généralement ils ont un peu de mal à s'inscrire, quoi.
Pépé et Mémé, ils ont pas Facebook, hein.
Ouais, Pépé, pas encore.
C'est chaud.
Mais imaginez les photos de gaines de vos Pépé et Mémé sur Facebook, voyez le danger que ça peut constituer.
Les selfies et tout.
Les selfies en chaise roulante.
Mais t'as une mauvaise qualité d'écran, toi, sur ton photo. Ça fait plein de petits traits.
Ça plaît des rides.
De blague. Voilà, exactement. Donc,
c'est pas les pixels, c'est ma grand-mère.
Donc Facebook, c'est Facebook, c'est 11 000 employés et 4 milliards de dollars en 6 mois. Ils gagnent.
En 6 mois, ils ont fait 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est ça ?
C'est ça.
Bon.
Je crois qu'aujourd'hui, Mark Zuckerberg, il est premier ou deuxième même le plus riche du monde.
Ouais, non mais attends, le mec il est trop généreux, quoi. Alors comme il a eu un enfant, il est trop fun. Ah, et oui, donc du coup, il va léguer 99% de sa fortune à un rythme d'un milliard par an. Donc ça veut dire que ça va durer des années. À des fondations, qui s'appellera Fondation Mark Zuckerberg, dont il sera propriétaire à majorité. Ça et qui financeront des projets philanthropiques dans le monde entier.
Genre une école démocratique.
Peut-être.
Non,
c'est une école de bourse, je crois.
Voilà.
Comme il a un gamin.
Peut-être la bourse démocratique.
Vraiment, Emma, il y a un créneau. C'est clair, comme ça, tu lui dis que ça fera une super éducation pour sa fille, parce que du coup, c'est à l'occasion de la naissance de sa fille.
Ceci dit, ce qu'il a fait, c'est que ça va lui faire gagner de l'argent, mec, quand même. Parce que tu fais pas ça comme ça. Enfin, je veux dire, quand t'as 70 millions de bénéfices en 6 mois, je pense que.
Ouais.
Ils sont rentrés en bourse aussi.
Ceci dit,
ils gagnent 70 millions tous les, enfin, en 6 mois, ils gagnent 70 millions sans compter, enfin, c'est 70 millions de bénéfices, quoi, qui peuvent aller dans le vide, quoi, qui sont pas serviables. Enfin,
qui bénéfices te donner, qui sont pas
dans les poches.
Ouais, enfin, c'est dans les poches, quoi, parce que en comptant 70 millions, c'est en comptant tous les prix, tous les salaires qui ont été payés, tout, en enlevant ça, il y aurait 70 millions d'euros.
D'accord. Et juste, dernier détail, c'est que la plupart des grands dirigeants de la Silicon Valley ont commencé à être dans des écoles Montessori, Steiner et Freinet. Ils ont suivi des éducations différentes. Est-ce que le futur Bill Gates viendra de Saint-Afrique ? Vous le saurez en écoutant Radio Saint-Afrique. T'as fini,
juste une petite truc à dire, une petite parenthèse.
Pour finir, vas-y.
Juste pour ajouter un truc. Alors, au début, en 2004, quand Facebook a commencé à créer, il n'était pas tout seul, le mec. Enfin, il n'était pas tout seul. C'était son idée à lui, mais ils étaient plusieurs à développer le machin. Donc, il y a un mec qui a développé et tout, mais qui s'est dit, ouais, c'est pas mon trip. Enfin, je vais me barrer, quoi, mais je veux bien quelques pourcentages. Donc, il a 2,34% de la société. Et là, aujourd'hui, on estime sa richesse à 9 milliards de dollars.
Et ça me donne un petit aperçu de celle de Zuckerberg.
Voilà, donc en 10 ans, alors le mec il doit toucher, je sais pas, enfin bref, c'est
énorme.
C'est un truc de fou, le mec, quand même. C'est tout ça pour
c'est
dire.
C'est un bon loss.
Voilà.
Allez, merci
tout
Hugo.
Tout ça pour dire que j'espère que vous avez bien compris. Ça me fait plaisir de vous raconter des trucs comme ça et tout, du coup, j'espère que.
Bah, c'est cool. Merci.
J'aime.
Merci beaucoup, Hugo. I like it. On écoute l'hymne de Facebook composé par je ne sais qui.
Facebook is a crime when people have too much time sending me requests, IQ and brain tests. It's no fucking joke, I don't like to super poke. Scrabulous hotness, update my status. I'm getting bored of Facebook, so don't invite me, for a sheep will bite me. Please don't hurt me, give me your...
Facebook Anthem. Il est 20h50 et si vous nous rejoignez, vous avez certainement manqué des choses absolument passionnantes. Mais restez à notre écoute car tout de suite, c'est l'heure de...
Pacapo.
Z doit appartenir à l'ensemble...
Les atomes et les particules encore plus petites...
C'est...
Protons et moutons.
Moins... Zéro. Z plus 5 sur Z égale
la gravité se propage
dans l'ensemble des nombres complexes grand C.
Minuscule brin d'énergie.
Courbe et des distorsions dans le tissu même de l'espace et du temps. Quelle est la condition sur les solutions?
Selon la théorie des cordes,
il est
les constituants de la matière.
Votre explication ne me suffit pas.
J'ai pourtant clair.
Cacapo, bonsoir.
Bonsoir.
Il paraît que t'es vénère.
Un petit peu.
Un petit peu, pourquoi?
Ouais, parce que, avec tout ce qui se passe, hein. Bon, c'est bien connu, Gattaz ne fait pas de politique. Et pourtant, dans un article du Parisien daté du 1er décembre, voilà qu'il s'engage en disant « Programme du FN, je dis attention. » Mais attention à quoi, monsieur Gattaz? Attention au programme antisocial, à son déferlement de haine envers les pauvres, les musulmans, les salariés, les syndicats? C'est ça? On n'y est pas. Car si monsieur Gattaz dit attention, c'est parce que le programme du FN lui rappelle le programme commun de la gauche en 81. Et d'ailleurs, attention extrême droite, extrême gauche, c'est pareil. Et Mélenchon-Le Pen, même combat. Monsieur Gattaz... Il ne sait même pas quelle ânerie sortir pour sauver son copain Valls. À mon tour, moi je dis attention, monsieur Gattaz, car votre entretien très politique, où vous promettez à la fois un programme antisocial, la défense et la réaffirmation des valeurs de la France, faut dire Gattaz-Le Pen, c'est le même combat.
L'involution, ça veut dire... L'involution, c'est... L'involution, ça veut dire...
En pleine période d'élection, nombre de gens se lâchent au FN, avec en tête de gondole Marion Maréchal Biatch, c'est ça, qui a prévu de couper les subventions au planning familial si elle était élue. Et le maire de Beaucaire, dans le Gard, a cru bon de rebaptiser la rue du 19 mars 62, date de cessez-le-feu en Algérie, en 5 juin 62, date du massacre d'Oran, célébré par les nostalgiques de l'Algérie française. Et moins connu, mais toujours aussi absurde, la tête de liste dans la Drôme, un certain Thierry Sénéclauz, estime que la France a besoin d'un coup d'État. Et après les attentats à poser sur Facebook, je suis bleu, blanc, rouge, pas noir. Il y a vraiment des gens qui devraient se faire censurer pour atteinte au racisme. Virgule.
L'involution, ça veut dire... L'involution, c'est... L'involution, ça veut dire...
Mais ce qui fait plaisir, c'est qu'une voix du Nord ne sera pas pour Marine. Alors que Marine était annoncée victorieuse par les sondages, le journal régional Une Voix du Nord a titré « Pourquoi le FN nous inquiète ?» et de décortiquer les mensonges de ce clan et ses dérapages. Il était temps, mais Marine a répliqué, en menaçant de leur couper les subventions de la région. Si elle était élue, elle doit pas savoir que le journal n'en touche pas.
« Lutte avec les temps et quand l'instru se barre, on truc avec prestance, en secrète, serpentard. Et vis large, m'éternise, éternis le bit qui est mort assailli pendant que je vise encore ce qui s'effrite. »
Et pour finir, un coup de sifflet à Philippe Meunier. Meunier, tu dors pas, mais tu devrais. Ce député des Républicains du Rhône, coutumier des déclarations démagogiques et provocatrices, a demandé à ce que les députés soient armés, y compris en séance. Il a des tentations suicidaires, lui. Étant donné le comportement de certains lors des séances, notamment Monsieur Meunier, le pire est à craindre.
On m'a dit tes idées ne sont plus à la mode. Quand on veut gouverner, ce n'est pas si commode. Il faut évidemment s'adapter au terrain, mettre jour après jour un peu d'eau dans son vin. On m'a dit dans la jungle, il faut qu'on se débrouille. On est bien obligé d'avaler des magouilles, de laisser dans un coin les projets trop coûteux. On va pas tout rater pour des canards boiteux. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. On m'a dit qu'il fallait prêcher et le sacrifice à ceux qui n'ont pas pu s'ouvrir un compte en Suisse, qu'il fallait balayer tous nos vieux préjugés et que ceux qui travaillent étaient privilégiés. On m'a dit, tu comprends, tes idées archaïques ne feront qu'aggraver la crise économique. Ainsi la liberté dans un monde plus juste fait partie des slogans qui sont un peu vétustes. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. Puis d'autres sont venus, beaucoup moins présentables, qui parlaient de la France en tapant sur la table, qui disaient faut changer, c'est la loi du pendule, on va pour commencer supprimer la pilule. Ensuite il faudra bien flitoxer la vermine, rétablir la morale avec la guillotine. Et puis il n'y a qu'à virer les mauvais syndicats pour conserver celui qui plaît au patronat. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. Ils ont dit qu'il fallait se montrer réaliste, qu'il y avait du bon dans les journaux racistes, qu'il fallait nettoyer ce cher et vieux pays si l'on ne voulait pas qu'il devienne un gourbi. Dois-je vous l'avouer, ces propos me renversent quand je vais boire un verre au café du commerce. Parfois je crois revoir sur du papier jauni la photo de Pétain dans mon verre de Vichy. La porte du bonheur est une porte étroite. Qu'on ne me dise plus que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81.
Ah, la porte à droite, merci à toi camarade Jean Ferrat. J'espère que tu te tournes pas à droite dans ton cercueil quand même. Et Hugo, t'as quelque chose à dire?
Oui, une petite blague. Donc c'est Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen qui sont sur un bateau. Jean-Marie Le Pen tombe à l'eau. Que reste-t-il à faire?
Pousser Marine, non?
C'est ça.
Oh, mais oui, avec grand plaisir. Alors.
Forcément.
Je serai le premier. C'est où qu'il faut le faire là? Il est tombé où à l'eau, lui?
Dans les
à
urnes.
Versailles.
Dans les urnes, faisons-les tomber, tiens tous. Oui. Allez hop, les fachos au cachot et puis les républicains. On peut les mettre. Peut-être pas au pouvoir quand même, hein, ce serait dangereux. On va pas déblatérer des conneries pendant 5 minutes parce que c'est déjà l'heure. C'est presque réussi mon challenge. Il est presque 21h, presque l'heure de passer la parole au maître de la galette, le breton des charpentiers, Fred, et la musique n'est pas une religion. C'est presque, ah ben ça y est, hop, ça y est, j'ai dépassé. Ben non, ben Fred, ça va être à lui. Ben non, il est pas là, mais on a quand même de quoi vous occuper les esgourdes. J'espère que cette heure fut agréable. J'espère que les auditeurs, auditrices ont apprécié. Cacapo,
oui,
Hugo, Emmanuel et Nelly qui n'a pas trop parlé,
non,
mais qu'on entendra
dit
une autre fois, qui se sera tu mais aura écouté l'émission et aura assisté. Merci beaucoup à Antoine à la technique.
En tout cas, ton challenge est pris parce que on t'a dit au dernier moment, allez hop, tu fais l'anime, et t'as fait l'anime, ça fait plaisir.
Et voilà, c'est ça le.
Ouais, bon, on m'a dit au dernier moment, tu fais la technique en présent, hein, et donc voilà.
Et bravo, bravo.
Et t'es un tout petit peu technicien aussi.
Ouais, parce que mais ce bon. Branleur de Jeanne là,
vite, on va bientôt avoir une minute de retard.
Et les filles, venez, ils sont pas méchants.
Il est technicien, l'autre aussi.
À moins qu'une émission avec technicienne de garde à la rentrée.
Ouais, les filles, petite surprise au mois de janvier, il y a une émission spéciale Nana qui va sortir.
spéciale, ah, émission spéciale Nana. On vous dit pas le titre.
L'église,
on le dit le titre. Allez, on vous le dit.
Les chattes du curé.
Les chattes du curé.
Ah ouais.
Qui débarque sur l'antenne pour 2016 pour les bonnes résolutions. Merci à toutes et tous de rester à notre écoute. Tout de suite, la musique n'est pas une religion ou non. C'est pas la musique n'est pas une religion. C'est autre chose. C'est une rediff.
Ah non non, Fred étant toujours très occupé à construire sa maison.
Ah, c'est ça.
D'ailleurs, bon courage à lui. Bon courage, Fred.
Parce que là, il doit être avec les phares de son C15 et qui marche plus, le pauvre, devant sa maison en train de monter les feux. On va t'en voir quoi.
Du coup, on écoute une rediff de la nuit du mix.
Ah, la nuit du mix, c'était samedi dernier. Tous les podcasts sur le site internet radio-saint-afrique.com, comme cette émission. Merci à toutes et à tous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Salut tout le monde.
Ciao.